musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission du Centre français des musiques juives, présentée par Hervé Rotten.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous mensuel du Centre français des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir chaque mois la richesse et la diversité des musiques juives d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Et ce soir, notre émission musicale sera consacrée aux musiques juives baroques de Venise, Mantoue et Amsterdam. À cette occasion, nous rendrons un hommage tout particulier au musicologue Israël Adler, décédé il y a 2 ans, et qui consacra sa vie à l'étude et à la reconnaissance de ces musiques juives des XVIIe et XVIIIe siècles. Pour nous accompagner ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir David Klein, musicien, musicologue, mais également informaticien, puisque David Klein est en charge du réseau Rachel, le réseau européen des bibliothèques hébraïca-judaïca. David Klein, bonsoir.
Bonsoir.
David Klein a ses nombreuses casquettes. Il faut ajouter que vous avez récemment constitué un ensemble vocal, l'ensemble texto, que vous dirigez et qui vient d'enregistrer un magnifique CD, et je n'exagère pas, qui s'intitule « Musique juive baroque, Venise, Mantoue, Amsterdam » dans la collection « Patrimoine musicaux des Juifs de France » de la Fondation du judaïsme français et dont je vous propose d'écouter dès à présent un large extrait. Entendre le Kaddish de Salamone Rossi, interprété par l'ensemble texto dirigé par David Klein. Et David Klein, justement, pourriez-vous nous dire quelques mots sur cet ensemble texto que vous avez créé ? Est-ce un ensemble dédié uniquement aux musiques juives ? Quelle était votre intention en créant cet ensemble ?
Alors, texto est un ensemble vocal et instrumental, composé exclusivement de solistes et dédié aux multiples facettes de la musique vocale des XVIIe et XVIIIe siècles. On vient d'écouter dans l'ordre Marine Bellen, Elodie Fonard, Antoine Jomain, Beltrán Iraburu, Angèle Meunier, Geneviève Siras, Christian Ploix et David Chavelson.
Ils sont tous, je crois, des chanteurs professionnels.
Des chanteurs professionnels. Ce qui nous intéresse, c'est pour le moment, de toute façon, de mettre face en face les profanes comme les sacrés, l'Église et, en effet, dans le cas de notre premier CD, la synagogue. Nos autres programmes de la saison aborderont Charpentier, Monteverdi, Purcell, Schütz, mais aussi d'une manière plus approfondie, l'œuvre de Salamone Rossi.
Oui, justement, Salamone Rossi occupe une place un peu particulière dans l'histoire des musiques juives. Il est en effet, je crois, le compositeur d'un important recueil qui a été publié à Venise en 1622 ou 23, comme on a la date hébraïque, on ne sait pas exactement la date qui correspond au calendrier chrétien. Et ce recueil s'intitule « Ashirim Asher les Shlomo », qu'on traduit généralement par les cantiques selon Salomon. Il y a derrière ce titre un jeu de mots, puisque on ne sait pas s'il s'agit du roi Salomon, si c'est les cantiques de Salomon ou de Salomon Rossi, c'est-à-dire qu'en fait, à travers le nom du roi, il honore aussi, et oui, plutôt, il met sa griffe en tant que compositeur. Et en tout cas, ce recueil de 33 chœurs de 3 à 8 voix contient donc des pièces qui étaient destinées au culte synagogal. Et quand on entend ça, d'abord, on est frappé, je crois, David Klein, par la proximité avec la musique baroque non juive. En quoi cette musique peut-elle être considérée comme juive ? Est-elle issue de thèmes traditionnels juifs ?
À notre connaissance actuelle des sources, Rossi ne semblait pas avoir puisé ses compositions des thèmes traditionnels juifs. Mais l'esprit de sa musique originale reste étroitement lié aux monophonies juives du rite italien, dans son écriture plutôt syllabique. Ces mélodies en intervalles consécutifs couvrant une amplitude assez limitée d'une quarte ou d'une quinte. Il paraît néanmoins qu'il existe une exception possible parmi ces 33 pièces. Seulement, rien ne permet d'établir si le chant traditionnel en question précède Rossi ou bien s'il a été intégré au répertoire de la communauté justement suite à la composition artistique de ce dernier.
Et de quelle pièce s'agit-il ? Est-ce que vous connaissez cette pièce ?
C'est la 8e pièce de la collection, mais je ne me rappelle pas le titre actuellement.
D'accord. Mais ce qui est assez étonnant, je rebondis sur ce que vous venez de dire, c'est que justement ce kaddish que nous avons entendu, on le chante actuellement, et je crois on le chante sur la prière Adon Olam. Et en fait, justement cette air a été composée par Rossi, mais a été intégrée plus tardivement, dans le répertoire liturgique des synagogues françaises, notamment grâce à l'action de Naumbourg.
Justement, il s'agit d'une adaptation de Naumbourg où il a enlevé une voix et il a changé complètement le texte, il a raccourci un peu le tout, c'est que je trouve quand même un tout petit peu dommage. Je pense que l'original de Rossi est tellement magistral que voilà, c'était un tout petit peu dommage, mais grâce à ça, tout le monde connaît cette mélodie-là.
Mais c'est tellement révélateur en même temps de ce qu'on appelle les musiques juives, c'est-à-dire le fait que, je le dis souvent, une musique ne naît pas juive, elle le devient. Et là, avec l'exemple de Salamone Rossi, on voit bien comment une composition de ce compositeur qui a, je dirais, fait ses gammes dans la cour des ducs de Gonzague, dans la cour de Mantoue, avant de devoir en partir pour le ghetto de Venise, et dans lequel il a en fait pu créer ses œuvres pour la synagogue, on voit comment cette pièce donc, de musique juive baroque par la suite intègre et devient part intégrante d'un répertoire liturgique que l'on considère aujourd'hui comme traditionnel.
Tout à fait.
Donc je vous propose d'écouter justement un extrait du deuxième chœur de Salamone Rossi contenu dans ce CD qui contient 3 œuvres de Salamone Rossi, donc un chœur qui s'appelle Lemi Erpots la Satyakar et dont vous nous direz quelques mots après, David Klein.
Thank you.
Extrait du chœur Lemmy Herpots, La Satyekar de Salamone Rossi, interprété par l'ensemble Texto, composé notamment de Marine Bélène, Elodie Fonard, Geneviève Siras, Angèle Meunier, Antoine Jomin, Christian Cloy, Beltran Iraburu, David Chavelson, et donc dirigé par David Klein, que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir. David Klein, pourriez-vous nous faire un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre de C'est un peu étrange ce chœur, 8 voix, on a l'impression des fois qu'il y en a 4, enfin on ne comprend pas ce qui se passe exactement.
D'accord. Bon, il s'agit d'une ode pour un mariage, dont le texte est attribué à Léon de Modène. Qu'il soit écrite pour un mariage réel dans les ghettos de Mantoue, ou bien prise pour métaphore de l'union entre les peuples d'Israël et son Dieu, au fond il s'agit d'une ketouba, un contrat de mariage, stipulant les droits et les devoirs de l'homme et de la femme, ainsi que leur place dans la communauté. Les tout dans l'esprit de l'époque, bien évidemment. Lui, il la protégera, souviendra à ses besoins. Elle sera toujours à son côté pour le soutenir en obéissance. Mais il y a un twist, un virage non attendu dont on va parler d'ici sous peu. Sur la forme, c'est un double éclair, un écho dans la tradition forte italienne des frères Gabrielli à Venise. On a un chœur des quatre personnes qui chante les textes hébraïques. Un autre chœur, les quatre personnes également, un coulisse, répond en reproduisant en écho les dernières syllabes du premier chœur et en formant ainsi un mot complètement différent en hébreu, mais qui a cette fois-ci un sens aussi en italien. Par exemple, le premier chœur chante « Ne elama », ça veut dire « elle reste silencieuse », et le deuxième chœur répond « lama », ce qui veut dire en hébreu « pourquoi », mais qui a aussi un sens en italien, « il l'aime ».
C'est extraordinaire.
Les deux chœurs rejoignent leurs forces dans les moments clés autour de l'image modèle du couple au sein de la communauté, ce qu'on vient d'entendre à la fin de cet extrait, ou en s'adressant directement à Dieu pour un effet de plénitude sonore. Dans ce sens-là, cette pièce culminant les premiers recueils connus de musique juive savante, rappelons-le, est une déclaration du mariage improbable entre l'hébreu et l'italien, entre les textes hébraïques et la musique italienne de l'époque. Mais on peut aussi considérer cette œuvre monumentale comme un discours d'un témoin des mariés, un discours a priori solennel et ému dans la bouche du premier chœur, parsemé d'épiques humoristiques, parfois carrément limites, exprimées comme si rien n'était par l'écho. Vous voyez donc la richesse incroyable de cette composition, à premier abord austère, percussive, sèche, mais tellement riche et émouvante à la réécoute. Et c'est justement à l'honneur d'Israël Adler de l'avoir compris très tôt et le programmer dans les concerts qu'il a organisés dès les années 1970, avec comme complice des rêves le chef israélien Avner Itai, toujours et sans doute pour longtemps encore la référence absolue dans l'interprétation de ses répertoires. Et c'est pour cela que cette pièce figure sur notre disque hommage.
Oui, c'est vraiment dans l'esprit de la comédie dell'arte. On a une pièce vraiment pleine d'humour. Vous avez parlé d'un personnage un peu particulier et en même temps important qui a beaucoup aidé Rossi et d'autres musiciens à faire entendre ses musiques. C'est le rabbin Léon de Modène, qui était musicien également, né en 1571, mort en 1648. Et c'était un rabbin vraiment touche-à-tout puisqu'il prétendait avoir exercé pas moins de 26 métiers différents tout au au long de sa carrière, et c'est lui qui, toujours selon Israël Adler, a introduit à la synagogue de la communauté de Ferrare une pratique chorale à l'occasion de certains Shabbats et fêtes, et également plus tard, peut-être dû à son influence à la synagogue de Mantoue, donc après l'institution du ghetto, également une pratique polyphonique savante. Donc, tout se passe en Italie. Donc, à cette période-là, au XVIIe siècle, on voit l'écriture, la musique polyphonique qui rentre à la synagogue. Cependant, c'est encore des essais souvent timides. Toutes les synagogues, on ne chante pas comme ça dans toutes les synagogues. À signaler également que cette assimilation d'une partie de la musique juive à la musique savante occidentale a également eu lieu dans d'autres communautés. On avait déjà parlé de la communauté du Comte Avenessin dans une de nos précédentes émissions en évoquant la composition d'un divertissement pour une circoncision pour soliste, chœur à quatre voix et orchestre, le Canticum Hebraicum. Mais on trouve également bien d'autres pièces savantes au sein de la synagogue portugaise ou séfarade d'Amsterdam. Ces pièces, évidemment, là encore une fois, sont jouées ou chantées lors de moments un peu particuliers, des Shabbats particuliers comme Shabbat Nahamu, qui était le Shabbat lié à l'inauguration de la synagogue d'Amsterdam, ou des fêtes comme Sukkot, Simrat Torah. Et bien sûr, pour les mariages ou les circoncisions, il y avait également de la musique. Et je vous propose d'écouter dès à présent un extrait d'un Leel Elim composé par un compositeur amstelodamois qui s'appelle Abraham Caceres, né à la fin du XVIIe et ayant vécu dans la première moitié du XVIIIe siècle, donc Leel Elim par l'ensemble texto. Extrait du CD Musique juive baroque, Venise, Mantoue, Amsterdam, la pièce Leel Elim du compositeur Abraham Caceres, une cantate en fait dans le style italien pour deux voix solistes et basse continue, interprété ici d'ailleurs par Geneviève Syras et Angèle Meunier. Et cette cantate a été écrite en 1738 pour la fête de Simrat Torah.
Si je peux me permettre, il y a aussi Magali Boyer au violoncelle et Alex de Valera à l'archiliste.
Absolument, pour la basse continue. Et alors ce qui est intéressant, si vous me permettez aussi, c'est que cette mélodie, juste un mot, a été, évidemment aujourd'hui on la chante encore dans le répertoire d'Amsterdam, mais plus du tout sous cette forme-là. On parlait tout à l'heure de l'intégration de ces musiques savantes dans le répertoire traditionnel. Aujourd'hui ça peut être chanté à une ou deux voix sans basse continue d'ailleurs. Et je l'ai trouvé personnellement dans le répertoire de la communauté de Bayonne ou de Bordeaux. C'est-à-dire que ça a circulé au sein des communautés hispano-portugaises. Donc pour montrer que c'était une musique qui avait beaucoup plu. Et de ce même Abraham Cáceres, on connaît une autre composition sur un poème religieux, un piout, pour l'inauguration de la grande synagogue portugaise d'Amsterdam en 1675. Et sur ce texte, Cáceres a écrit une musique dans la première moitié du XVIIIe siècle que l'on chante encore aujourd'hui, le jour anniversaire de l'inauguration de cette synagogue qui tombe le Shabbat Naramo. Je vous demande d'écouter à présent Rishki Rishki de Abraham Cáceres. Ishki Reski, un piout d'Isaac Aboab da Fonseca, mis en musique par Abraham Cáceres dans la première moitié du XVIIIe siècle à l'occasion de l'inauguration de la synagogue d'Amsterdam, toujours dans une interprétation de l'ensemble texto. Et là, on a pu l'entendre, il y a également les musiciens qui jouent, parce que l'ensemble texto, ce ne sont pas que un chœur de 8 chanteurs et chanteuses professionnelles. Il y a des instrumentistes, et je vous laisse le soin de donner leur nom parce que vous y tenez, David Klein. Donc, merci.
Absolument. On vient d'entendre justement Alex Greffin Klein, notre violon solo, Cécile Brossard, alto, et Magali Boyer, violoncelle, auquel il faudra joindre par la suite, Marik Bush, violon également, et Joël Gauvry, clavecin. On a aussi des cornistes, Benjamin Locher et Édouard Guittet sur les disques, et des oboïstes, Claire Caron et Laura Butuyer.
Merci David pour ces précisions. Donc une autre composition quand même majeure et qui occupe une large place dans ce disque musique juive baroque est due au compositeur italien Cristiano Giuseppe Lidarti, qui, comme son prénom l'indique, n'était pas juif, mais a néanmoins écrit plusieurs œuvres pour la communauté portugaise d'Amsterdam. C'est d'ailleurs un peu étonnant parce que, si j'ai bien saisi, il était d'origine italienne, même si je crois qu'il était né à Vienne. Et on le trouve en train d'écrire des œuvres pour Amsterdam. Ça reste toujours un peu un mystère dans la circulation des musiques. Comment ce compositeur italien a été sollicité par la communauté d'Amsterdam pour écrire des œuvres? Est-ce qu'on le sait, David Klein?
Tout ce que je peux dire, que moi, je ne le sais pas.
Alors, je sais que le professeur Adler, Israël Adler, avait un petit peu étudié cette question, et ça reste encore une fois un mystère, mais on trouve beaucoup d'œuvres de Lidarty dans le répertoire de la communauté d'Amsterdam. Donc, on est certain qu'il y a eu des liens entre ce compositeur et probablement le secrétaire général de la communauté à l'époque, qui s'appelait, je crois, Franco Mendes, et donc qui avait commandé à ce compositeur des illustrations musicales, ou plutôt des musiques pour la communauté portugaise. Et à propos de ce Lidarty, sa plus importante œuvre en tant que, je dirais, musique juive, est un oratorio, c'est l'oratorio d'Esther, dont vous reproduisez dans votre disque de nombreux extraits. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur cet oratorio, et si vous avez des précisions sur Lidarty également, mais sur cet oratorio notamment?
D'accord. Bon, l'oratorio d'Esther, c'est tout d'abord l'histoire fascinante du passage d'un texte biblique dans le temps et de l'espace. À savoir qu'il s'agit, bien sûr, à l'origine du texte du livre d'Esther, dans la Bible, repris par Racine en 1689 pour les Demoiselles de Saint-Cyr, avec une musique composée d'ailleurs par Jean-Baptiste Moreau. Ce texte des Racines, texte en français bien sûr, a été adapté en Angleterre en 1715 par Thomas Burton et a servi comme base pour le livret du tout premier oratorio de Handel sur le même sujet, l'oratorio Esther, 1718. Repris, remanié à plusieurs reprises à partir de 1732. Sur ces textes-là, les rabbins Jacob Raphaël Saraval souhaitaient écrire une adaptation hébraïque de nouveau. Donc on revient à l'hébreu. Et cette adaptation hébraïque a été connue depuis un bon moment, notamment par Israël Adler. Elle est tout à fait charmante, magnifique sur le plan littéraire, mais carrément enchantable sur la musique de Handel. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de trace d'une présentation pareille dans l'histoire. En 1997, un bibliothécaire à l'université de Cambridge, Richard Andrews, achète un manuscrit de Lidarty intitulé Oratorio Esther. Et en regardant le manuscrit, il constate que le texte chanté, bien qu'écrit en caractère latin, ne correspond à aucune langue reconnue pour lui. Il fait une petite recherche sur Lidarty. Il voit que Lidarty effectivement composait aussi pour la synagogue d'Amsterdam et que la grande autorité sur le sujet, c'est Israël Adler. Israël Adler est contacté. Il reconnaît tout de suite, il identifie tout de suite le texte du rabbin Saraval. Mais la surprise générale, c'est que ce texte enchantable sur la musique de Handel a été bel et bien composé par Lidarty. Et ça, c'était une nouveauté de 1997, une grande découverte.
C'est assez incroyable comme histoire.
Israël Adler entreprend alors l'édition moderne de cette œuvre qui sera donnée en première mondiale en l'an 2000 à Jérusalem par Avner Itai, et après en première européenne en France lors du festival de Radio France à Montpellier 2003, il me semble.
Oui, tout à fait. Il y a un coffret qui est d'ailleurs paru qui s'appelle Esther, justement publié par l'Université hébraïque de Jérusalem, où vous pouvez entendre l'oratorio complet, et il est long cet oratorio puisqu'il dure plus de 2 heures. Mais malheureusement aujourd'hui on n'a pas le temps d'écouter, et ça ne figure pas dans le disque l'ensemble de l'oratorio, donc nous allons écouter dès à présent un extrait de cet oratorio, tout simplement la pièce Mishoresh ad Anaf Atzmet, qui est le récitatif et l'air d'Aman, le fameux Aman que vous connaissez tous dans Purim.
Aman iber, am habitami atza, uveinei melech amitrach, mishkamoni fematza. Shimu ut uen ot hashi, ol Yisrael nishmat, la eregmat. Thank you.
Michoresh ad anaf atzmet, extrait de l'oratorio d'Esther de Lidarti. Nous venons d'entendre le récitatif et l'air d'Aman, interprété ici par Beltrán Iraburu, de l'ensemble texto dirigé par David Klein. Et une petite précision pour nos auditeurs et auditrices, c'est qu'à cette période-là, dans l'opéra ou dans les oratorios, on a souvent l'alternance de récitatif et d'air. D'ailleurs, c'est sur ce modèle que va être construit l'opéra pendant des décennies, voire des siècles. Le récitatif étant une partie, je dirais, qui est une sorte de parler chanté, mais qui est destinée à faire avancer l'action. Et l'air étant un moment spécifique de l'action où l'on se pose, où les héros et les héroïnes peuvent exprimer leurs sentiments. Donc on a cette alternance sans arrêt de parties un petit peu plus secco et de chants plus développés, plus lyriques. Et c'est ce qu'on a entendu ici. Et dans cette ère d'Aman, où Aman dit en gros, assez parlé ce jour-là, le sang de tous les juifs coulera, Aman a dit le décret, etc. Et c'est vraiment l'histoire de Pourim. Et ce qui est assez incroyable, ça amène de ma part deux réflexions, David Klein. C'est que d'abord l'hébreu est une langue magnifique à chanter, ça c'est une découverte pour moi parce qu'on a tellement entendu dire que l'italien était la langue par excellence de l'opéra et de la musique, et là on se rend compte que l'hébreu est une langue qui se coule parfaitement dans le moule de l'opéra.
C'est là une des grandes prouesses de Lidarti. On peut dire beaucoup de choses de la musique si on la juge d'une manière absolue. Bon, ce n'est pas du Mozart, ce n'est pas la musique forcément du premier rang, mais ce qui est frappant ici, c'est l'accord entre les textes et la musique, les naturels. D'ailleurs, ça sonne complètement naturel même aujourd'hui. Les accents sont là où il faut, ça chante. Et surtout, il y a aussi une compréhension du sens du texte de la part de Lidarti.
Alors, c'est, comme vous avez dit, ce n'est pas du Mozart, mais c'est marrant parce que ça évoque quand même du Mozart. On est dans un style qu'on pourrait qualifier de le style pré-galant, qui annonce Mozart, ou en tout cas le premier Mozart, le jeune Mozart, puisque là, on est dans les années 1774, quand même. Mozart a 18 ans, si je ne m'abuse. Donc, Lidarti en a entendu parler et a dû l'entendre, forcément. Et ça reste encore quand même dans un style très imprégné de baroque, puisqu'on a le fameux continuo avec le clavecin. Enfin, on a différents procédés qui seraient un peu fastidieux et long de détailler ici, qui relève de la période baroque. Et je vous propose d'écouter un autre extrait de cet oratorio d'Esther, chanté par le chœur seul et absolument magnifique, c'est Beit Israel Sivtu.
Thank you.
Beit Israël, Sivdou, et le texte qu'on pourrait traduire par pleure, peuple d'Israël, ta terre, des étrangers l'ont maudite. Cette pièce est extraite de l'oratorio d'Esther de Lidarti, interprétée toujours par l'ensemble texto dirigé par David Klein. Le chœur magnifiquement ici enregistré par l'ingénieur du son Thierry Bardon, dont vous voulez dire quelques mots, je crois, tellement il est également. Il s'est impliqué dans ce projet de restitution de cette musique juive baroque.
Tout à fait, avec une finesse hors pair, une perfection également, et avec un souci pour une image de son extrêmement naturelle, mixage magnifique, enfin, magistral, montage également, et il est une partie intégrante de ces disques.
De la réussite de ce disque, parce que ce disque, j'insiste, est une vraie réussite, et vous pouvez vous le procurer. Je redonnerai les coordonnées de la Fondation du judaïsme français, puisqu'il a été édité par la Fondation du judaïsme français dans sa collection Patrimoine musical des Juifs de France. Mais David Klein, vous avez choisi dans cet enregistrement de faire interpréter ces pièces par un chœur mixte, comme on peut l'entendre. Était-ce le cas au moment où ces pièces furent composées et données ?
Non, absolument pas. D'ailleurs, l'oratorio Esther est écrite pour un chœur à trois voix, ce qui est déjà un tout petit peu bizarre. Et les deux voix supérieures sont écrites en utilisant la clé de sol non octaviée. Sachant que bon, la clé de sol, aujourd'hui la clé de sol non octaviée, ça veut dire plutôt les voix aiguës, les voix de femmes, et une clé de sol octaviée, ça veut dire on chante une octave plus bas, et c'est normalement les ténors. Là, je pense que, enfin, il est assez évident que ça a été bon. Pour Israël Adler, ça voulait dire qu'une de ces voix-là était chantée par un sopraniste masculin et l'autre est peut-être par un ténor. Pour moi, c'est aussi tout à fait possible que ce soit tout simplement chanté par des ténors. Ceci dit, on ne voulait absolument pas continuer à entretenir ce genre de traditions où les femmes sont exclues justement de la création artistique. Bien sûr, on ne voulait absolument pas, et au nom d'une soi-disant souci pour d'un soi-disant souci pour l'interprétation à l'authentique, éternaliser cet état de choses. D'autant plus que le duo qu'on vient d'écouter tout à l'heure, les Elelim, a été de toute évidence écrit pour des chantres, mais que la nature de l'écriture, elle est tout à fait inspirée par les duos pour les femmes en Italie dans la même époque. Et donc, sur notre disque, c'est chanté par des femmes.
D'accord. Donc, en fait, et ça nous rapproche vraiment de cette musique baroque. Et à part l'hébreu, rien ne différencie vraiment ces musiques juives baroques des musiques baroques en général. Vous avez mentionné, évidemment, et on le mentionne depuis le début de l'émission, Israël Adler, ce musicologue un peu hors du commun, personnage très singulier, qui a été à l'origine de la redécouverte de l'oratorio d'Esther. Et vous comme moi, David Klein, nous avons bien connu Israël Adler, puisque nous avons fait une partie de nos études avec lui. Je voudrais dire quelques mots sur ce personnage qui me tient à cœur, puisque Israël Adler est décédé, comme je l'ai dit, il y a maintenant 2 ans. Il était né en 1925 à Berlin, dans une famille de 3 enfants, et il a émigré en Palestine avec ses parents à l'âge de 11 ans. Et là-bas, et dans un premier temps, il a fait des études talmudiques dans les yeshivot de Jérusalem, et puis Petah Tikva. Puis à 23 ans, à la création de l'État d'Israël, il a participé à la guerre d'indépendance au sein du Palmar. Mais comme il adorait la musique, il s'est installé en 1950 à Paris pour suivre des cours de musique et de musicologie. Et il s'est inscrit notamment à l'école pratique des hautes études et à l'Institut de musicologie de la Sorbonne, où il obtient en 1963 son doctorat pour son travail justement sur les pratiques musicales savantes des communautés juives en Europe au XVIIe et XVIIIe siècle. En 1963, il devient le directeur du nouveau département de la musique de l'Université hébraïque de Jérusalem, c'est-à-dire qu'il revient en Israël. Et dès 1964, il fonde le Centre de recherche sur les musiques juives, qui existe toujours aujourd'hui, et la Phonothèque nationale d'Israël, sur le modèle justement de la Phonothèque de la BNF. Bon, il a une longue carrière de professeur aux universités de Tel Aviv et de Jérusalem, mais il nous est également cher, puisqu'en 1985, avec la complicité de son collègue ethnomusicologue Simra Arom et de Franck Alvarez Perret, Israël Adler a créé à Paris l'association Yuval, qui était le premier pôle de recherche sur les musiques juives en France. Et Yuval, précisons-le, est avec la Fondation du judaïsme français l'une des 2 institutions cofondatrices du Centre français des musiques juives. D'ailleurs, les musiques que nous entendons depuis le début de cette émission sont extraites d'un disque qui a été enregistré à l'occasion d'un concert donné en 2010 par l'association Yuval, donc en hommage à son fondateur Israël Adler, disque édité par la Fondation du judaïsme français dans sa collection Patrimoine musical des Juifs de France. David Klein, vous avez travaillé avec Israël Adler, comme je l'ai dit, pendant plusieurs années. C'était quand même un personnage extraordinaire. Est-ce que vous vous rappelez de quelques anecdotes rapidement à son propos ?
Israël Adler, c'est tout d'abord, en général, un sacré personnage, il faut le dire. Un caractère très, très, très fort. Très, très attachant. Souvent têtu, parfois même agaçant. Mais on pouvait, tout simplement, on ne pouvait que tout lui pardonner, parce que ça a toujours été fait d'une manière très adorable, avec énormément de charme, et avec un enthousiasme qui est digne d'un enfant qui vient de découvrir un nouveau jouet et qui ne lâchait plus. Oui. Et voilà, c'est en pensant à Israël Adler, il y a quand même, on ne peut pas empêcher un grand sourire.
C'est vrai qu'il il avait un sacré caractère, et quand vous parliez de charme, moi de mon côté je me souviens de plusieurs anecdotes, mais Simra Aharon m'avait raconté comment il avait été presque jusqu'à charmer une femme qui résidait à Paris et dont il avait appris qu'elle possédait une très importante collection de manuscrits provenant de la Guénisa du Caire, et à force d'entêtement, de charme, il avait réussi à la convaincre, à le laisser filmer, microfilmer des documents qui étaient vieux parfois de 1000 ans. Et en l'espace de quelques jours, il avait organisé une opération incroyable, faisant venir des appareils de microfilmage, des aides, et en quelques jours, des milliers de manuscrits uniques étaient sortis de la caisse, qui mesurait plus de 2 mètres de haut sur 1,20 m de large, pour être inventoriés puis microfilmés. Et bien écoutez, pour terminer justement cet hommage à Israël Adler et à la musique juive baroque qu'il a contribué à faire renaître, je vous propose d'écouter un dernier extrait de l'Oratorio d'Esther. Justement, il s'agit de l'air d'Esther, un air de bravoure qui vous rappellera quand même peut-être l'air de la Reine de la Nuit de la flûte enchantée de Mozart, même si c'est évidemment moins peut-être virtuose, mais qui est ici chanté avec brio par la soprano Elodie Fonard.
Thank you.
Zed Yair, Mi Meni RF, L'Air d'Esther, qu'on a du mal à interrompre, on aimerait l'écouter jusqu'au bout. Et si vous voulez justement l'écouter jusqu'au bout, je vous encourage à vous procurer ce magnifique CD, Musique juive baroque, Venise, Mantoue, Amsterdam, qui est un hommage à Israël Adler, et que vous pouvez commander à la Fondation du judaïsme français. Je redonnerai tout à l'heure les coordonnées. Mes chers amis, notre émission touche à sa fin. Le mois prochain, nous nous intéresserons aux musiques de la synagogue de Prague avec Martha Stellmacher, musicologue, qui a eu le privilège d'avoir accès à des partitions et à des enregistrements historiques de cette tradition détruite en grande partie par la Shoah. Donc, si vous souhaitez réentendre et d'abord commander ce CD Musique juive baroque ou réentendre cette émission ou les précédentes, réagir aux propos de notre invité ou proposer des thèmes pour les prochaines émissions, vous pouvez nous contacter sur le site du Centre français des musiques juives www.cfmj.fr ou par téléphone au 09 77 71 96 57. Je répète, 09 77 71 96 57. Pour nous accompagner ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir David Klein. David Klein, merci. Merci au micro, Hervé Rotten, et à la technique, David. Le Centre français des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée. En musique, bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission du Centre français des musiques juives, présentée par Hervé Rotten.
Le sugar.
I'm the sugar for my baby and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey. Now I'm wild.